Donc je m'appelle Gabriel, je suis enseignant au lycée Paul Robert, tout en haut du plateau ici. Je connais certains d'entre vous, je ne connais pas forcément tout le monde. Alors ne rien oublier. Moi je me souviens de ce qu'on a discuté avec les collègues quand on a attendu la tragédie. La façon dont on a reçu la nouvelle, c'est certainement pas comme un fait divers parmi d'autres. Avec les enseignants et les personnels, on entendait ça comme une évolution possible d'un épuisement professionnel qui touchait beaucoup de gens. Et s'il ne faut rien oublier, moi j'oublie certainement pas la réaction des pouvoirs publics immédiatement après ce qui s'est passé. Vous vous souvenez de ces affiches qui disaient, elle s'appelait Christine Renon, il y avait comme un combat pour faire valoir le fait qu'on prononce son nom, qu'on parle d'elle, parce que monsieur le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dans un tweet, n'avait même pas su l'écrire en toutes lettres. Il a fini par le dire le 3 octobre, le matin, dans une vidéo qu'il a envoyée à tous les enseignants de France. Et invité par RTL, ce jour, le 3 octobre, on le presse un peu sur la grogne qu'il y a dans l'éducation nationale. Et écoutez, je veux pas oublier les mots et je voudrais pas qu'on m'accuse de déformer ce qu'il a dit, mais voici exactement ça. Qu'a dit monsieur Blanquer ? Vous les journalistes, quand vous mettez de l'huile sur le feu, quand on donne le sentiment sans arrêt que tout est en crise, que rien ne va plus, à la fin, on crée cette nervosité qui évidemment a des conséquences. Bref. La course au sensationnalisme serait donc responsable d'un sentiment infondé. Le lendemain matin, 4 octobre. Alors le lendemain matin, le jeune Kevin Kilmaz a été tué en haut du plateau. Donc, tragique matinée. On apprend que Kevin est mort. En marge du cours de PS, dans un événement qui a impliqué des élèves de l'établissement où je sers. Et évidemment, le collègue.
On l'oublie aussi peut-être à tort. Mais le jeune Aboubakar, 13 ans, est mort des conséquences de violences d'une rixe qui impliquait déjà la jeunesse des villes avoisinantes. À cette époque-là, avec les collègues du lycée, parce que ça nous concernait aussi, ça concernait notre public, on a eu beaucoup d'élèves en pleurs, évidemment, imaginez. La question c'était, est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on fait un geste? Est-ce qu'on se mobilise? À cette époque-là, ce qu'on a ressenti, c'est que la position majoritaire, ce n'est pas nécessairement le moment. On a voulu assurer la continuité du service auprès des élèves, être là avec eux, et on n'a pas lancé un combat autrement qu'en étant présent avec eux. Quand ça s'est reproduit un an après, que le rectorat nous dépêche la même équipe de psychologues pour pouvoir parler si on le souhaite, on s'est dit on ne va pas se donner rendez-vous tous les ans pour un même drame. Et a commencé une grève, enfin une grève, exercer un droit de retrait qui va être refusé, c'est compliqué, mais qui a duré 2 semaines, où le travail s'est arrêté. Et surtout, on a été aux côtés de nos élèves. Personnellement, je ne me suis jamais senti autant à ma place qu'à ce moment-là. Parce que ce que je disais aux élèves, c'est que quand quelque chose de grave se passe, il n'y a aucune raison qu'on soit silencieux face au pouvoir. C'est gentil, hein, j'ai cherché mes mots, hein, je n'étais pas prêt. Dans ces moments, je pense qu'on a surtout besoin de personnes qui sont prêtes à assumer leurs responsabilités. Et dans ces semaines de combat, j'aimerais vous raconter une chose que moi je ne peux pas oublier, c'est l'attitude de l'État et de ses services. Au tout début, le 9 octobre, dans le Parisien, le rectorat a déclaré « on ne peut pas grand-chose ». 2 jours plus tard, l'école fait 155 jours dans l'année, pas 365. Encore un peu plus tard, on ne va pas résoudre le problème des banlieues en 2 jours. Et enfin, Jean-Michel Blanquer, lors de la 2e semaine, quand nous manifestions à 2 reprises à plus de 800 personnes, il disait « ce n'est pas mon affaire, c'est une affaire de voie publique, ça a eu lieu sur le trottoir, pas à l'intérieur du gymnase ». Cette attitude-là, elle est déplorable. Ce qu'on attend de personnes en position de faire quelque chose, c'est qu'ils aient envie d'assumer ses responsabilités, d'agir. En réalité, on a obtenu un terrible silence. Il y a eu 2 discours, 2 attitudes. Nous, notre discours, c'était d'abord plus jamais ça. C'était de dire que pour la jeunesse des Lilas, de Romainville, du Pré-Saint-Gervais, de toutes ces villes, ça faisait 4 morts en un an et c'était inacceptable et que l'État n'avait pas à être absent. Il fallait faire davantage. Le lien avec le combat du comité Christine Renon, je crois qu'il va de soi. Déjà parce qu'il s'agit d'un combat commun entre personnes qui travaillent pour et avec la jeunesse. On est séparés par à peine 500 mètres. Mais surtout, en réfléchissant à nos problèmes, on a compris que nos revendications dépassaient le simple cadre de notre établissement. Le rectorat demande habituellement à recevoir des enseignants d'un établissement et leur demande de parler de ce qui se passe dans le lycée, dans l'école et pas au-delà. Mais c'est nous déposséder de la possibilité de réfléchir à la politique éducative que la jeunesse nécessite. on a fini par défendre une idée. C'était pour nous, on avait beaucoup de jeunes qui avaient peur, tout simplement. On défendait le droit à ce que les jeunes se sentent en sécurité. On demandait une politique volontariste pour le département, bien entendu. On demandait davantage de moyens pour l'école, moyens scolaires et parascolaires. Et on demandait aussi l'invention du psychosocial, nécessaire aux défis nouveaux. Une jeunesse qui parfois se fait mal et parfois fait mal à d'autres. Alors se retrouver avec le comité, c'est une évidence. Dans sa lettre, Christine Renon parlait de plein de petites choses. Et certains n'ont peut-être pas compris le lien entre les petites choses et son geste terrible. En Seine-Saint-Denis, maintenant, on vous parle de choses terribles, on en arrive à des grands malheurs, pas simplement à des petites choses. Les petites choses ne sont plus si petites. Moi, ce que ça m'évoque, c'est... Excusez, déformation propre, mais ça me rappelle un historien que j'ai lu, il s'appelle Patrick Weiman. Et c'est un spécialiste de l'Antiquité, il réfléchit à pourquoi les états de l'Antiquité se sont écroulés. Et il dit que dans l'imaginaire, quand un état ne marche plus, on imagine une espèce de grande explosion finale, comme si ça y est, ça ne marche plus, et tout s'effondre d'un coup. Et ce qu'explique cet historien, c'est que ça ne marche pas comme ça. Un état qui s'effondre, ou un état qui ne remplit plus ses missions, c'est quand les petites choses deviennent trop grandes pour pouvoir être même adressées par l'État. C'est quand il y a des lanceurs d'alerte qui disent que ça ne va plus dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et que l'État se renvoie la balle en disant que ça, c'est de la responsabilité de l'intérieur, le bâtiment, il dépend du département, ça, ça relève de la mairie. Et personne ne se bouscule pour enfin prendre les choses en main. Au fond, une société qui va bien, c'est une société qui sait traiter des banalités. Et c'est ça le sens de la lettre de Christine Renon. C'est pour cela qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'au-delà de son geste, il y a aussi un appel qui veut dire qu'il ne faut rien négliger et que la jeunesse mérite mieux que des décideurs qui se renvoient la balle. Alors, moi, ce que je retiens de cette dernière année, de ces réponses que l'État nous donnait, on ne peut pas tout changer, etc. Ben, je retiens que notre marche, elle a du sens. Puis un an plus tard, on a encore ensemble à dire qu'on n'oubliera pas l'année prochaine ni l'année suivante. Et on fera le lien entre les combats et les défis posés à toute la jeunesse. Partout, ici, ailleurs. Nous continuerons à alerter, nous nous battons. Je vous remercie.
Merci.
Bravo.
Merci.
Bravo.
Merci.